C'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les héros français du débarquement célébrés à Colville-Montgomery, Nathalie Hernandez suit pour nous l'hommage rendu au commando Kiefer. À qui incombe l'échec des négociations entre Renault et Fiat Chrysler? Fiat rejette la faute sur le gouvernement français, mais c'est plutôt Nissan qui s'inquiétait de ce projet de fusion. Agnès Buzyn promet de recevoir les urgentistes et promet une stratégie d'ensemble pour refonder le secteur, mais le mouvement continue. Et puis les trottinettes stationnées n'importe comment sur les trottoirs parisiens, Anne Hidalgo dit stop, la maire de Paris annonce une série de mesures censées mettre fin à l'anarchie. 75 ans après le D-Day, le jour du débarquement allié sur les plages de Normandie, la première statue de Philippe Kiefer a été érigée en bord de mer. À travers lui, hommage était rendu aux 177 fusillés marins du commando Kiefer, les seuls Français en uniforme à avoir participé au débarquement. Et les cérémonies se poursuivent. Nathalie Hernandez, vous vous trouvez ce soir à l'école des fusillés de Colville-Montgomery.
Oui, tout à fait, face à la mer, la cérémonie est en train de toucher à sa fin. C'est une cérémonie à laquelle tient Emmanuel Macron, d'abord parce que, comme vous l'aviez dit, elle honore les 177 commandos dirigés par Philippe Kiefer, qui avait pour objectif de libérer Ouistreham ce 6 juin 44. L'un d'eux, Léon Gauthier, est présent. C'est lui qui, avec le président de la République, a remis le célèbre béret vert à 15 jeunes gens fraîchement brevetés. Et puis, des élèves de classe de défense du collège Jean Monnat de Ouistreham ont évoqué le parcours de ce premier bataillon de fusiliers marins commando. Le président de la République a rappelé dans son discours l'engagement de ces jeunes soldats en 44, engagés jusqu'à donner leur vie. Ils connaissaient, a-t-il dit, le risque de leur mission. Ils ont accepté de la remplir. Philippe Kiefer les avait prévenus la veille, mais le lendemain, tous étaient là. Eh bien, c'est à leur image et aussi, a rappelé le président de la République, que les deux premiers maîtres, Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Soulot, ont eux aussi servi l'honneur et la liberté de la France jusqu'à donner leur vie le 10 mai dernier au Sahel lors de la libération de deux otages français. Et le président de la République a adressé également un message à ceux qui aujourd'hui deviennent des commandos marines, vont commencer ce parcours, cette vie dans les forces spéciales. Il a rappelé qu'il fallait défendre cette société de liberté, être vigilant face à l'obscurantisme et au fanatisme qui sont aujourd'hui deux dangers mortels.
Merci Nathalie Hernandez. Ce matin, Emmanuel Macron a remercié en anglais les vétérans qui ont libéré la France. L'Amérique n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres, a déclaré le chef de l'État, tandis que Donald Trump louait les liens franco-américains incassable. En marge de ces cérémonies, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont aussi entretenus très cordialement à la préfecture de Caen. Bref, c'est un jour où l'on met son mouchoir sur les sujets qui fâchent, Nathanaël Charbonnier.
Sur la forme, il avait été décidé de faire la paix, pas de mots qui fâchent, surtout pas le jour où nos deux pays commémorent le D-Day, le débarquement, où des milliers d'hommes sont morts. Alors les phrases ont été choisies pour donner l'illusion que tout va bien. Et le président Trump de s'inquiéter de ce que pense le monde de l'entente franco-américaine et de poursuivre rassurant qu'il n'y a pas à se faire de soucis car la relation entre nos deux pays est fabuleuse et je l'apprécie tout particulièrement. Même tonalité du côté français, Emmanuel Macron a d'abord parlé des sujets qui rassemblent et il y en a, comme le terrorisme où les deux pays travaillent main dans la main.
Nous sommes, qu'il s'agisse des opérations que nous menons en Afrique au Levant, extrêmement liés. Et nos soldats, ce qui est, je dirais, le risque principal que nous prenons ensemble, travaillent main dans la main sur tous ces théâtres d'opération.
Pour le reste, Moyen-Orient, Iran, tout a été remis à plus tard. Et Donald Trump de prendre l'exemple des sanctions contre la Chine. Il prendra sa décision après le prochain G20 qui se tiendra en juin au Japon. Pas de sujet qui fâche et une rencontre qui aura toutefois duré moins longtemps que prévu.
L'économie américaine a démarré 2019 sur les chapeaux de roue, mais la conjoncture pourrait se détériorer, prévient le FMI, le Fonds monétaire international, qui estime qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer les indicateurs sociaux. Près de 45 millions d'Américains vivent dans la pauvreté. Aux États-Unis, toujours, la question de l'avortement occupe une place centrale dans les débats depuis plusieurs mois et il laissera sans doute encore beaucoup question lors de la prochaine campagne pour la présidentielle de 2020. Plusieurs États viennent d'adopter des lois restrictives sur sur le doigt à l'avortement. Et l'administration Trump vient de prendre une autre décision. Les centres fédéraux qui dépendent du gouvernement américain ne sont plus autorisés à utiliser des tissus issus de fœtus avortés dans le cadre de leurs recherches. Les explications depuis Washington de Grégory Phillips.
C'était une revendication des lobbies anti-avortement. Dorénavant, les centres de recherche fédéraux ne pourront plus effectuer de travaux en utilisant des tissus prélevés sur des fœtus avortés. Par ailleurs, l'administration annule son partenariat avec l'Université de Californie à San Francisco pour les mêmes raisons. Notre priorité, dit le ministère américain de la Santé, c'est de promouvoir la dignité de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Ces tissus fœtaux sont pourtant particulièrement utiles dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer, contre le VIH ou le cancer. L'Association des médecins américains rappelle que le recours à des tissus issus de fœtus a aussi permis dans le passé de développer le vaccin contre la polio. Les médecins dénoncent une décision politique et idéologique. L'administration Trump n'interdit pas pour l'instant le recours à ces tissus dans le cadre de recherche, mais elles ne pourront plus se faire avec des fonds publics.
La fusion Renault-Fiat-Chrysler ne verra pas le jour, en tout cas pas pour l'instant. Le groupe italo-américain a retiré sa proposition dans la nuit. Les conditions politiques ne sont pas réunies en France, selon le groupe italo-américain. Le conseil de Fiat-Chrysler a donc retiré la proposition qu'il avait déposée il y a 9 jours. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
La France, elle, dément cette version.
Oui, Fiat a pointé la responsabilité du gouvernement français dans cette affaire. Les conditions politiques ne sont pas réunies, commente le communiqué envoyé par le groupe italo-américain. Au cours de la nuit dernière, Fiat parle de nouvelles exigences de la part de Bercy qui ont fait capoter l'entente. La France donne une toute autre version, explique qu'elle ne voulait pas se précipiter et chercher des garanties sur son partenariat avec Nissan. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se rend d'ailleurs au Japon pour s'entretenir avec son homologue dans les prochains jours. Ce ne sont donc pas les conditions politiques qui font obstacle, rétorquent les négociateurs français. Avec cette fusion, la famille Agnelli, propriétaire historique de Fiat, vous le savez, serait restée première actionnaire du nouveau groupe à 14,5% du capital, pesant près du double de l'État français.
Merci Mathilde Imberti en direct de Rome. Et selon Bernard Julien, maître de conférence en économie à l'université de Bordeaux, l'échec des négociations est bien lié aux réticences de Nissan. On l'écoute tout de suite.
Je pense surtout qu'ils ont une envie très modérée de partager leur technologie avec Chrysler sur le terrain américain en particulier, mais sans doute pas seulement. Et pour eux, c'est une occasion de renégocier le Rama, hein, considérant que l'accord qui avait été passé avec Renault est caduque parce que Renault n'est plus seul. Et du coup, c'est même Renault qui pourrait se priver d'un accès aux technologies de Nissan et Mitsubishi. Et je pense que ça a pesé quand même lourdement dans la prudence dont a fini par faire preuve l'État français sur le dossier en affirmant mollement d'abord et puis plus fermement ensuite qu'il fallait absolument que l'allié historique qu'est maintenant Nissan Mitsubishi soit tout à fait impliqué et d'accord pour que le dossier puisse avancer. On sait Nissan en difficulté aux États-Unis. Pour eux, partager leur technologie avec Chrysler et ses marques comme Jeep ou Ram, etc., ce serait muscler un concurrent. Hein, et ce serait par conséquent accroître leurs difficultés à résoudre le problème américain qui se dessine pour eux. Donc c'est un premier élément. Et puis évidemment, il y a ensuite les relations dont on sait qu'elles sont très compliquées entre Renault et Nissan, et donc une opportunité pour Nissan de sortir des accords qui pour l'instant bordent encore assez largement la capacité qu'a Nissan de sortir de cette alliance qui leur a longtemps convenu, hein, mais qui remet en cause de manière de plus en plus claire depuis l'affaire Ghosn et probablement depuis un peu avant.
Bernard Julien répondait à Hakim Kasmi. Un homme politique tué d'une balle dans la tête à bout portant, ça s'est passé en Allemagne le week-end dernier. Les enquêteurs ont exclu la piste du suicide pour ce dirigeant politique. Ce qui est donc un meurtre ne fait étonnamment pas grand bruit de l'autre côté du Rhin, Ludovic Piétenu.
Oui, Walter Lübcke, 65 ans, était un homme politique bien connu, Aurélie, ancien député de la CDU, le parti de la chancelière. Il présidait depuis 10 ans le district de Kassel, dans le land de Hesse, au centre du pays. Il est un représentant de l'État au niveau local, 1200 employés sous son autorité. Tout le monde sait où il habite, son adresse a même été publiée sur Internet par des militants d'extrême droite. Il vit à quelques kilomètres de Kassel, dans un village de 900 habitants, où samedi soir dernier, c'était la fête. Beaucoup de bruit et personne n'a entendu détonation, une balle de petit calibre tirée dans la tête à bout portant. Walter Lübcke est retrouvé mort sur sa terrasse. 50 enquêteurs mobilisés, un appel à témoins hier soir dans une émission de télé à une heure de grande écoute, quelques retours depuis mais rien de significatif selon la police qui s'interroge toujours sur le mobile. L'extrême droite est montrée du doigt, certains se sont réjouis de ce meurtre sur les réseaux sociaux, les mêmes qui avaient proféré il y a quelques années des menaces de mort contre cet homme qui avait soutenu la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel. Quand on est allemand et chrétien, la coexistence est importante, tout comme l'aide aux personnes dans le besoin, avait-il dit en 2015 dans une réunion publique sous les huées de membres de Pegida, mouvement patriote xénophobe et islamophobe.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Après plus de 2 mois de crise des urgences hospitalières, la ministre de la Santé promet une stratégie d'ensemble pour refonder le secteur. Agnès Buzyn a confié une mission au Conseil national de l'urgence hospitalière et au député La République En Marche Thomas Mesnier pour adapter les urgences aux nouveaux besoins. Mais dans l'immédiat, pas d'annonce de budget supplémentaire. Et quelques 200 infirmiers, aides-soignants et médecins de plusieurs services d'urgence ont donc manifesté à Paris cet après-midi jusqu'au ministère de la Santé. Ils continuent de dénoncer des conditions de travail de plus en plus compliquées, manque d'effectifs, manque de moyens, insécurité. Les soignants que vous avez rencontrés n'en peuvent plus, Clément Comte.
Des visages avec du faux sang, des blouses blanches sous les mêmes banderoles, des slogans. Agnès Buzyn, on veut des moyens. Ici, le message est très clair, il faut plus d'infirmiers et d'aides-soignants aux urgences. Pour Nadia, c'est une priorité. Elle est infirmière à l'hôpital du Creusot, en Saône-et-Loire.
Aujourd'hui, on fait plus notre métier bien, c'est pas vrai ça. Aujourd'hui, on fait notre métier comme on peut, mais pas comme on voudrait le faire. Quand on a une situation urgente à gérer, il n'y a pas de problème, mais c'est tout ce qui est autour, c'est-à-dire les personnes âgées qui restent sur des brancards pendant 10 heures, 12 heures, des personnes âgées à qui on ne peut pas changer les protections, des personnes qu'on ne peut pas réinstaller correctement, à qui on ne peut pas donner à boire parce qu'on n'a pas le temps.
Et les syndicats dénoncent les arrêts de travail, les burn-out, le personnel est découragé, mais le futur personnel aussi. Clara est interne en médecine, l'année prochaine elle sera urgentiste à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Parfois on sort de garde, on est jeune et on se dit « c'était ma vocation, je voulais faire les urgences, je voulais être humaine ». Et on arrive chez soi, on a l'impression d'avoir fait des bêtises toute la nuit, d'avoir laissé passer des patients qu'on n'a pas vus, qu'on a laissé voir par l'externe. Et franchement, on en pleure, et pas parce qu'on est jeune, et on espère juste que dans le futur, toutes les gardes ne seront pas comme ça. C'est pour ça que les jeunes doivent aussi prendre la parole là-dessus.
Autre problème pointé du doigt par les manifestants, l'insécurité aux urgences. Camille Calaillon est médecin à l'hôpital Lariboisière à Paris. Pour elle, c'est un phénomène lié au manque d'effectifs.
L'insécurité, elle se fait au sein de l'hôpital. Elle se fait au sein des urgences, dans les salles d'attente, par des patients qui attendent trop longtemps parce que nous n'avons pas assez de personnel pour pouvoir les voir plus rapidement. Et avoir des soignants supplémentaires, c'est pouvoir avoir le temps de pouvoir dire aux gens « nous sommes en train de faire des examens, les choses sont en cours ». Pouvoir essayer d'apaiser ces tensions-là.
Le problème, c'est que ces métiers-là, aides-soignants, infirmiers, n'attirent plus beaucoup de monde, selon Maryse Voisine, secrétaire du syndicat Sud Santé dans le Maine-et-Loire.
Angers, l'école d'aides-soignantes n'est pas complète pour la rentrée de septembre, mais le métier probablement qui ne l'attire pas. Et en même temps, quand on voit les conditions de travail dans lesquelles travaillent les collègues, automatiquement, bah oui, nos jeunes collègues n'ont plus envie de venir travailler dans les hostos, quoi.
Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a promis ce matin une stratégie d'ensemble pour les urgences. Elle invite notamment les hôpitaux à mobiliser plus largement une prime de risque existante, près de 100 euros brut par mois.
Les syndicats de Radio France s'opposent unanimement au plan d'économie envisagé par la direction. Ils comptent appeler les salariés à une journée de grève pour dénoncer les restrictions budgétaires, réorganisation de travail et suppression de postes annoncées. Radio France veut faire 60 millions d'euros d'économies sur 4 ans pour répondre à une baisse de la dotation de l'État tout en investissant dans le numérique. Selon la direction des ressources humaines, il devrait y avoir 270 à 390 départs volontaires sur 3 ans. Édouard Philippe a prévu de rencontrer demain l'ensemble des eurodéputés français fraîchement élus pour discuter avec eux des priorités à porter ensemble dans l'Union européenne. Une douzaine de ministres doivent l'accompagner à cette rencontre. Mais en face d'eux, il n'y aura ni la délégation des Verts, ni celle de la France insoumise, pour qui il n'est pas question de recevoir des consignes du gouvernement. La France insoumise s'affiche par ailleurs comme l'opposition à la grande coalition qui se dessine au Parlement européen. Mais aura-t-elle les moyens de son ambition ? Dans une note interne révélée par le journal Le Monde, 42 cadres et militants dénoncent le fonctionnement du parti. Ils estiment qu'il y a trop de verticalité et une ligne politique incertaine et ils exigent des garanties avant la tenue d'une assemblée représentative de la France insoumise prévue le 23 juin. Après le très fort recul du mouvement aux élections européennes, ces critiques sont normales, dit le bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Manuel Bompard, eurodéputé La France insoumise, réagit à la publication de cette note.
D'abord, elle n'accuse personne, elle fait des propositions, cette note dont vous parlez. Elle considère que le point actuel n'est pas satisfaisant et elle pose des propositions pour essayer de faire en sorte que demain le mouvement fonctionne d'une meilleure manière. C'est tout à fait légitime de pouvoir faire ces propositions. Elle ne me pose aucune difficulté et ces propositions, elles seront, j'ai envie de dire, versées au pot commun pour faire en sorte que effectivement on améliore la manière avec laquelle fonctionne notre mouvement. Donc il n'y a rien de conflictuel, il n'y a rien d'interne, il n'y a rien de secret. C'est des gens qui font des contributions, il y en a plein, des contributions, et celle-ci en fait partie. Dans toute organisation politique, quelle qu'elle soit, à l'issue d'une élection, vous avez des débats, un bilan de l'échéance électorale et puis des perspectives aussi sur l'avenir. Donc voilà, c'est normal, c'est naturel, c'est légitime qu'il puisse y avoir ces discussions. Ensuite, la France Insoumise est un mouvement qui est un mouvement évolutif. C'est comme ça qu'il a été introduit, présenté, c'est comme ça qu'il a fonctionné depuis sa création en 2016. C'est-à-dire un mouvement qui, chaque année, précise, améliore son fonctionnement. Et donc, pour ça, on a des conventions. On a eu une convention à Bordeaux au mois de décembre. On a pris un certain nombre de décisions pour progresser sur certains sujets. Bien sûr, ces décisions vont être mises en place. Et puis, les contributions des uns et des autres pour améliorer le fonctionnement du mouvement sont les bienvenues. Donc, il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là.
Manuel Bompard au micro de Johanna Hochstein. 70% des fruits et 40% des légumes contiennent des résidus de pesticides. Voilà ce que conclut l'ONG Génération Future dans un rapport publié aujourd'hui. Un rapport portant sur des produits non bio et basé sur les chiffres de la Direction Générale de la Répression des Fraudes. Ces pesticides se retrouvent notamment dans les cerises, les clémentines et le raisin pour les fruits, dans le céleri, les endives ou encore la laitue pour les légumes. Véronique Reberotte.
De cette compilation, il ressort que plus de 71% de fruits et 43% de légumes non bio consommés en France contiennent des résidus de pesticides. Et même, dans plus ou moins 3% des cas, il y a dépassement de la limite autorisée. Dans le détail, pour ce qui est des fruits, la situation est particulièrement critique pour les cerises. 89% des échantillons avec des résidus de pesticides, suivis de près par les clémentines et mandarines, le raisin, les nectarines, les fraises et les oranges. Des fruits tout en haut du classement en termes de contamination aux produits phytosanitaires. Les prunes et mirabelles, les avocats et les kiwis sont les moins contaminés. Le kiwi est un fruit qui connaît beaucoup moins de ravageurs, quand la cerise, en revanche, subit de nombreuses attaques de mouches entre le moment de la floraison et celui de la cueillette. Côté légumes, le céleri branche est en tête du classement. Des résidus de pesticides ont été trouvés dans 85% des échantillons, suivis du céleri rave, des herbes fraîches, des endives et des laitues. Tout en bas du classement, donc peu contaminé, les betteraves, asperges et le maïs doux. Des résultats qui mériteraient d'être communiqués aux consommateurs, estime l'ONG Génération Future. Les consommateurs devraient savoir ce qu'ils ingurgitent en toute connaissance de cause, ce qui est loin d'être le cas.
Anne Hidalgo contre-attaque sur les trottinettes à Paris. Après sa charte de Paris adoptée il y a 3 semaines et avant la loi sur les mobilités actuellement en débat au Parlement, la maire de Paris a décidé de frapper fort car la grogne monte face à l'invasion des rues parisiennes par des trottinettes électriques en libre-service dangereuses et mal garées, Thomas Larabi.
Oui, le ton était donné dès l'intitulé de cette conférence de presse, les trottinettes en finir avec l'anarchie. La maire de Paris a déroulé son plan, un plan en 2 temps, dans l'immédiat sous la forme d'un arrêté préfectoral. L'interdiction de garer ces trottinettes sur les trottoirs. Les engins devront désormais être stationnés sur les emplacements de 2 roues ou de voitures, ce qui ne manquera pas de provoquer de nouvelles inimitiés entre automobilistes et utilisateurs de trottinettes. À plus long terme, des places de stationnement leur seraient dédiées. Également dans les prochains jours, Anne Hidalgo demande aux 13 opérateurs présents à Paris de brider leurs trottinettes à 20 km/h dans la ville et même à 8 km/h dans certaines zones dangereuses. Un bridage à distance en fonction des quartiers rendu possible par le système de géolocalisation dont sont équipées ces trottinettes. Des trottinettes qui sont devenues un véritable enjeu médiatique des municipales de 2020. Et selon Anne Hidalgo, si ces mesures d'urgence sont entardées, eh bien ce n'est pas de sa faute, c'est bien celle du législateur qui doit lui confier plus de pouvoir. Écoutez.
J'ai dû attendre 1 an. Si j'avais pu le faire dès l'arrivée de ce service, évidemment que nous serions tous beaucoup plus satisfaits. La décentralisation vis-à-vis des maires d'un pouvoir réglementaire sur la mobilité est une solution, si ce n'est la solution.
Enfin, sur le plus long terme, la maire lancera un appel d'offres pour limiter à 2 ou 3 le nombre d'opérateurs autorisés dans la capitale avec des critères écologiques et surtout sociaux. Et enfin, une limitation stricte du nombre d'engins. Aujourd'hui, il y en a 20 000, c'est beaucoup trop, a-t-elle martelé. Des mesures qui devraient prendre effet début 2020.
Thomas Larabie. La météo, ce soir, 8 départements de l'ouest de la France sont placés en vigilance orange pour fortes rafales de vent. Demain vendredi, le temps sera agité, pluvieux et venteux sur la plupart des régions. Le matin, les températures iront de 9 à 17 degrés. L'après-midi, il fera 15 à 28, jusqu'à 30 degrés en Alsace et en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.